Bon, cette fois, ça va être cool comparé aux épisodes précédents. On parle d'une femme, de gauche en plus. Elle est sympa, la Guyée, tu l'aimes bien, toi?
Oui, juste il va falloir parler de lutte ouvrière.
Ah, toi, t'as pas peur de parler des fachos, mais t'as peur de parler de Hello.
Ça va être des problèmes. Moi, je dis ça va être des problèmes, mais c'est pas grave, faut dire la vérité aux Français. Allez, on y va. Allez, allons-y.
Mesdames, messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une femme communiste, d'extrême gauche, révolutionnaire et trotskiste.
Oui, on ne pouvait pas passer à côté d'Arlette Laguiller dans notre série de portraits sur la Ve République parce qu'elle incarne vraiment quelque chose.
Plusieurs choses même. Elle détient encore aujourd'hui le record du nombre de candidatures à l'élection présidentielle. Elle s'est présentée 6 fois entre 1974 et 2007. Et c'est aussi la première femme à avoir concouru à ce scrutin.
Votre société, messieurs les politiciens, n'est pas sortie de la barbarie et c'est vous qui l'y maintenez.
Alors elle a traversé comme ça la vie politique française de Giscard à Sarkozy, à dire toujours un petit peu la même chose, mais avec une bonne cote de sympathie, mine de rien.
Donc on va commencer par vous rassurer. Aujourd'hui, en 2022, Arlette Laguiller va bien, même si Lutte Ouvrière lui a trouvé une remplaçante, elle continue à militer.
À 81 ans, l'ancienne salariée du Crédit Lyonnais a toujours sa place dans ce bureau au siège de Lutte Ouvrière, un bureau qu'elle partage avec Nathalie Arthaud, celle qui lui a succédé en 2012. Elle participe, entre autres, à la rédaction du journal du parti.
Son discours n'a pas changé, c'est toujours le même depuis au moins 50 ans et elle a toujours autant de motivation.
Elle ne se préoccupe pas trop de la présidentielle prochaine, mais plutôt des conséquences de la crise sanitaire sur le monde du travail.
Je ne sais pas si c'est le problème des présidentielles ou pas des présidentielles. Ce qu'on est sûr, nous, à Lutte Ouvrière, c'est qu'il va y avoir des attaques de plus en plus importantes parce que il faudra que les travailleurs remboursent la dette, parce que il faudra, on nous dira, il faut faire des économies, donc c'est aux travailleurs de le faire, etc., ou aux retraités, enfin, ils trouveront.
Bon, je sais pas quel âge vous avez, on s'en fout, enfin, normalement, Arlette Laguiller, vous connaissez au moins deux noms, je sais pas, vous l'avez au moins vue dans Les Guignols, dont elle a été un personnage récurrent pendant des années.
Travailleurs, travailleuses, réagissez, quittez les ateliers, sortez dans la rue, reprenez les usines, l'outil de production est à vous.
Bon, Arlette, vous savez qui c'est, mais est-ce que vous connaissez Lutte Ouvrière, son parti?
Alors, c'est pas le vrai nom du parti, hein. Le vrai nom du parti, c'est Union Communiste.
Non, mais vous, les trotskistes, faut toujours que vous compliquiez tout.
Non, c'est pas compliqué, attends, je vais t'expliquer. En fait, à la base, c'est un petit groupe trotskiste qui, forcément, pendant la Seconde Guerre mondiale, agissait dans la clandestinité sous différents noms, hein. Tout le monde était sous pseudonyme, et évidemment, ils n'avaient pas pignon sur rue, hein, c'est la guerre.
Attends, on peut peut-être prendre une minute pour expliquer qui sont les trotskistes.
On peut même faire plus long, hein.
Ouais, moi, peut faire très court aussi.
On peut faire très court. Donc, en gros, c'est des communistes, mais anti-staliniens. Ça veut dire que du coup, pendant la guerre, ils avaient sur le dos à la fois la Gestapo et le KGB.
Bah, nous, on s'est construit en désaccord avec le Parti communiste, ouais. Et en particulier avec toute sa période stalinienne. Mmh. On en a même souffert, nous les trotskistes, certains dans leur chair parce qu'ils ont été assassinés par les staliniens, y compris on a eu un camarade à Paris qui l'a été.
Le camarade dont parle Laguiller s'appelait Mathieu Buchholz et ce que lui reprochaient les staliniens, c'était d'avoir recruté de jeunes communistes pour en faire des trotskistes. Bon, bah, on a retrouvé son corps dans la Seine.
Ouais, ça rigolait pas à l'époque, hein.
Ah non, ça rigolait pas. Et d'ailleurs, la clandestinité, la discrétion, la peur de la répression, ça fait encore partie de la culture de Lutte Ouvrière aujourd'hui.
D'autant plus que Buchholz, c'est pas n'importe qui. C'est un des membres fondateurs, avec Pierre Bois et Robert Barcia, du parti qui va devenir Lutte Ouvrière en 1968. Et c'est à cette organisation que Laguiller est adhérente depuis 1962.
C'est vite résumé, mais c'est à peu près ça.
Ouais, excuse-nous, le doctorant en trotskisme.
Non, c'est bien. Lutte Ouvrière est encore aujourd'hui un des partis les moins bien connus de l'extrême-gauche française. Il est très secret, très hermétique. Beaucoup de rumeurs circulent sur ses pratiques militantes, sur son organisation très opaque. Et ce culte du secret, qui a sans doute sauvé la vie des premiers militants du groupe pendant la guerre, pose aujourd'hui beaucoup de questions et a parfois suscité la curiosité des journalistes.
D'ailleurs, un journaliste a fini par enquêter pour Libération sur l'organisation et ses pratiques dans les années 90. Il a même fait quelques révélations à l'époque.
Ce journaliste, nous l'avons contacté, il a accepté de nous répondre, c'est une exclue Blast. C'est la première fois qu'il accepte de revenir sur cette enquête qui lui avait valu un procès de la part de Lutte Ouvrière à l'époque, un procès qu'il a gagné, et ce journaliste, vous allez peut-être le reconnaître.
C'est la première fois que je reparle de ça, c'est parce que c'est vous, mais sinon, voilà, je suis vraiment passé à autre chose, quoi, tu vois.
Bon, ok, on s'est pas foulé, c'est juste David Dufresne.
Non, mais par contre, c'est vrai, il a vraiment fait des révélations sur Lutte Ouvrière dans les années 90.
Mais on n'y est pas encore aux années 90. Là, on en était à la première candidature à la présidentielle d'Arlette Laguiller en 74. Parce que c'est à ce moment-là que le grand public la découvre.
Et c'est un choc. On vous l'a dit, elle est jeune, elle est issue d'un milieu modeste, elle travaille comme dactylo dans une banque, et surtout, c'est une femme, la première de l'histoire de ce pays, à oser se présenter à l'élection présidentielle.
Eh bien oui, je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette république d'hommes. C'est légal et pourtant cela choque Cela paraît étrange, même aux hommes de gauche, et cela doit l'être, puisque je suis la seule.
Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail? Comment c'est perçu à l'époque? Est-ce qu'on se moque de vous? Est-ce qu'on vous rit au nez? Est-ce qu'on vous voit arriver avec le sourire? Comment réagissent ces hommes? C'était un milieu d'hommes.
C'était à la fois, oui, il y a eu des petites saillies parce que j'étais une femme, et surtout parce que j'étais une dactylo, et que franchement, les dactylos, il faut que ça reste à leur place. Hein. Qu'est-ce que ça a à concourir pour la présidence de la République? C'est-à-dire que le mépris, moi, je l'ai plus ressenti social que réellement misogyne.
Et pourtant, hein, tout au long de sa carrière, elle va subir le sexisme, la misogynie. Elle sera jamais tout à fait traitée comme le seront ses concurrents masculins.
Ouais, on vous a trouvé quelques extraits. Il y a par exemple Thierry Ardisson qui est assez condescendant avec elle.
Vous n'êtes pas mariée, pourquoi? Parce que vous êtes contre l'institution du mariage?
Parce que j'ai pas eu envie de me marier, et je crois que je suis pas toute seule.
Non, mais est-ce que c'est idéologique?
Est-ce que c'est extraordinaire d'avoir envie de se marier?
Non, mais est-ce que c'est idéologique, ou est-ce que c'est votre vécu comme ça? Vous dites non, j'ai pas envie de me marier.
Je crois que c'est mon vécu, je crois que c'est mon choix personnel.
Moi, je vais vous dire, je vous aime beaucoup, parce que, quelles que soient vos idées politiques, vous avez un cœur gros comme ça, Arlette.
Ah, j'ai un cœur, et puis j'ai une tête aussi, ouais. Je crois.
Bon, ça, c'était les années 80, mais ça va continuer, hein.
Ouais, regardez cet extrait de L'Heure de Vérité, la fameuse émission de François-Henri de Virieux. Là, on est en 1995.
François-Henri de Virieux vous l'a dit, il m'a chargé d'interroger chez vous la femme et de laisser la politique à mes collègues masculins. Il y a tout de même une question un peu politique
c'est
qui
C'est quand même bizarre, ça, d'avoir choisi ça, non?
Ça arrive souvent, vous savez.
Oui.
Vous ne vous maquillez pas, sauf un tout petit peu aujourd'hui, je crois, c'est pour la première fois. Vous n'avez pas voulu vous marier, ni avoir d'enfants. Vous êtes consacré entièrement au combat pour les autres. Quand est-ce que ça vous est venu, cette vocation? À quel moment avez-vous prononcé cette espèce de vœu, comme d'autres prononcent le vœu de pauvreté et de chasteté?
Ça revient souvent, ça, dans la manière dont les bourgeois perçoivent la Guyée. Ce serait une nonne, une femme pleine de sollicitude, tournée vers les pauvres. Voilà, sa mission militante, en fait, elle serait sacrificielle. C'est beau, quoi.
C'est une manière d'aseptiser son combat aussi, de le faire passer pour compassionnel. C'est limite de la charité, ce qu'elle fait. En fait, c'est Mère Teresa.
Alors que, bon, elle s'exprime quand même plutôt clairement hein, sur le programme de lutte ouvrière. C'est pas « aimez-vous les uns les autres hein, », c'est un projet de société plutôt radical.
Un projet de société écrit en noir et rouge chaque semaine dans le journal Lutte ouvrière. La révolution devra détruire tous les appareils d'État de la bourgeoisie, le Parlement, la justice, la police, l'armée.
Je suis la seule à dire aujourd'hui qu'il faut réquisitionner les entreprises qui suppriment des emplois, les entreprises qui licencient et en premier lieu, bien sûr, celles qui font des bénéfices et qui continuent à avoir des plans sociaux, des plans de licenciement.
Je crois que c'est la première mesure d'urgence. Ensuite, ou...
Oui, c'est une forme de nationalisation, mais sans indemnité ni rachat. C'est une réquisition. C'est une expropriation.
Ah bah c'est pas l'avenir en commun, hein. C'est pas au-dessus de 12 millions, on prend tout. Hein.
Non, là, on prend juste tout maintenant.
Ah bah c'est une léniniste, hein, la Guyée. Et puis Hello, c'est une organisation communiste particulièrement orthodoxe.
Particulièrement communiste, oui.
Face à ce type de programme, les bourgeois, ils ont deux types de réactions. Soit ils sont horrifiés, soit ils trouvent ça mignon, ça les fait marrer, il y a un côté désuet. C'est en tout cas ce qui se dit à partir des années 80. Et c'est normal, hein. Les années 80, c'est le déclin des partis communistes en Europe, c'est les années fric, les années coke, surtout chez Ardisson.
Bonsoir, est-ce que je peux vous dire bonsoir, camarade?
Ah, c'est vous que vous allez compromettre, mais enfin, moi, ça ne me dérange pas.
Entre vous et vos camarades, vous appelez camarades?
Oui, on s'appelle aussi par nos prénoms, c'est des fois plus simple.
Vous êtes les derniers, finalement, à vous appeler camarades, parce que ça se perd, quand même, non?
Je trouve que si ça se perd, c'est dommage, mais enfin, on est quand même encore assez nombreux, je crois, à s'appeler comme ça.
Quelque part, qu'il y a encore des communistes dans ce pays, les bourgeois, ils trouvent ça choupi. C'est quand même touchant que les prolos, ils aient perdu la lutte des classes, mais qu'ils essayent encore. Et ça, ça les fait marrer.
Ça vous fait peur, le discours d'Arlette Laguiller, monsieur Sylvestre?
Oh ben non, pourquoi ça ferait peur? C'est pas fait pour ça, c'est pour faire rire.
Il y a même une chanson d'Alain Souchon en hommage à Arlette Laguiller. Alors là, ça retranscrit très bien ce ton paternaliste.
Quand Arlette chante, c'est de la verdure sur un monde difficile, dur.
Ah, je sais pas si vous avez entendu, hein, un monde difficile, dur, c'est pas sa meilleure.
Non mais attends, c'est encore plus condescendant après, je vais vous lire un extrait des paroles. Elle nous suggère la guerre de ne pas la faire.
Oui, c'est mieux.
Que sur la terre, les hommes sont des frères.
C'est vrai.
De partager les soucis, les chemises.
Pourquoi pas.
Et même si c'est des bêtises, que c'est gentil, que c'est beau, Arlette it be, Arlette's go.
Ça, c'est n'importe.
Elle a quelque chose d'authentique qui est très rare, qu'on rencontre chez l'abbé Pierre, et puis c'est tout.
Il avait dû être touché par le personnage de d'Arlette Laguiller, cette espèce de loser éternel qui a commencé sa carrière en même temps que lui, finalement. Je crois que Souchon s'était dit, comme beaucoup d'entre nous, que qu'à la longue, c'était un personnage sans danger.
Oui, nous, cette fausse bienveillance, ça nous a fait penser au premier passage dans « On n'est pas couché » en 2011 de Philippe Poutou. Hein, c'est un peu pareil, c'est le candidat des travailleurs, il est nouveau, il a un nom rigolo.
Il y a votre nom qui vous sauve.
C'est vrai, je retirais.
C'est vrai,
on n'oublie pas.
On oublie Poutou, ça se
oublie pas. Voilà, c'était ouais. Un nouveau candidat, c'est le début, donc on lui souhaite bonne chance, on lui fait plein de petits Poutous. Et là...
Comme Poutou, Arlette Laguiller va accepter le jeu de la médiatisation. Elle va accepter les plateaux pour la même raison qu'elle accepte les élections. Il s'agit de faire entendre coûte que coûte la parole révolutionnaire.
Je crois qu'il faut qu'il y ait une voix qui dise dans ces élections que la classe ouvrière ne va pas pouvoir accepter sans arrêt de sombrer de plus en plus dans la pauvreté. Parce qu'on s'attaque à son niveau de vie, on s'attaque à ses acquis sociaux, on s'attaque à son emploi. Et aujourd'hui, c'est d'un côté l'enrichissement et de l'autre côté l'appauvrissement. Alors, il faut que la classe ouvrière se batte, lutte et ne compte pas justement sur les élections pour changer quoi que ce soit.
C'est ce que j'allais vous demander. Donc les élections, c'est pour porter un discours, une doctrine, se faire connaître. Mais lutte ouvrière, c'est aussi, voire surtout, ce travail de terrain, toute l'année, dans les entreprises, pour faire en sorte que la classe ouvrière s'organise. Là où les autres organisations trotskistes, comme la LCR, attirent souvent des intellectuels, des étudiants, des professeurs, des journalistes, une sociologie que leur reprochait souvent le PCF d'ailleurs, lutte ouvrière, c'est l'organisation trotskiste prolétarienne. Elle est implantée dans les usines, sur les lieux de production, elle y distribue sa propagande, y investit ses syndicalistes. Le but, c'est d'organiser concrètement la lutte des travailleurs, loin des plateaux télé.
D'ailleurs, Arlette Laguiller, elle vient de là. Elle a participé à l'organisation d'une grève en 68 au Crédit Lyonnais. C'est la banque où elle a travaillé jusqu'à sa retraite. Au Crédit Lyonnais, où aucun syndicat ne bougeait, la décision fut prise avec les camarades de passer à l'offensive le lundi 20 mai. C'est-à-dire de venir au travail avec des pancartes et d'appeler les gens à la grève. Le lundi, donc, nous étions environ une vingtaine, une demi-heure avant l'ouverture, avec nos banderoles et nos porte-voix. En commençant par l'immeuble Ménard, où nous étions connus des collègues, nous nous sommes aperçus qu'il suffisait d'appeler pour que les employés sortent. Ils attendaient une initiative. Nous l'avions prise et les travailleurs y répondaient.
La citation, elle vient de ce bouquin, « Moi, une militante », publié en 1974, juste après l'élection présidentielle. Et là, on retrouve en fait cette position marxiste-léniniste classique. Hein. Le prolétariat n'a pas un instinct pour la subversion, la lutte ou la révolution. Il faut qu'il y ait une avant-garde qui puisse être là pour le stimuler.
Et on parle d'une avant-garde révolutionnaire dans la classe ouvrière, pas au-dessus ou à côté.
Voilà, c'est ça. Ça, c'est le travail de terrain, c'est le travail central de lutte ouvrière. Et ça, c'est la partie immergée de l'iceberg, celle que vous voyez pas. Vous, à la télé, vous avez surtout vu Arlette. Seulement, dans les années 90, lutte ouvrière se met à faire des scores importants. En 95, pour les présidentielles, le parti dépasse les 5%.
Et puis ensuite, Arlette Laguiller deviendra conseillère municipale, régionale, puis députée européenne. Plutôt pas mal pour une femme issue d'une famille populaire, une famille qui a vécu de l'assistance publique.
Mais voilà, avec le succès électoral, vont arriver les journalistes. Et vous savez comment ils sont, hein, les journalistes, hein, ils passent des coups de fil, en loose day, ils cherchent des trucs, un petit peu comme des fouilles merdes, hein, on peut le dire.
Non, en fait, ce qui s'est passé, à l'époque, donc je suis à Libé, et effectivement, ils font un score incroyable au régional. Et donc, on décide de faire des portraits de militants et d'élus. Et à ce moment-là, j'en fais un ou deux. Et je reçois un appel d'un type très inquiet, d'un militant de longue date, qui me dit « c'est pas tout à fait ça ». En fait, au départ, c'est une parole de souffrance. Ce sont des gens qui souffrent, qui me disent « on croit en la révolution, mais on n'y croit pas comme ça ». Voilà, c'est venu comme ça, si tu veux.
Et là, si vous êtes un peu de gauche ou d'extrême gauche et que vous connaissez le milieu militant, vous devez commencer à avoir une idée de ce dont on va vous parler.
Hein, ça se sait que les militants de LO, ils sont un peu bizarres. Mais pour savoir de quoi on parle exactement, on vous a retrouvé l'article de David Dufresne. Cet article daté de 1998 s'intitule « Plongé dans la nébuleuse lutte ouvrière, le parti trotskiste, ultra secret, traque les déviances petites bourgeoises de ses adhérents jusqu'à leurs choix familiaux. Enquête ».
Dans cette enquête qui s'appuie sur des témoignages de militants, on va lire par exemple que pour être intégré à lutte ouvrière, il faut passer des tests. On va vendre le journal, gagner des contacts via des accroches dans les cafés ou à la sortie des lycées, lire beaucoup, des romans, des ouvrages politiques.
Les militants vont être évalués sur leurs connaissances, leur mode de vie et même leurs choix vestimentaires. Une militante se souvient, amusée, d'un rapport sur ses vêtements, jugé trop mode et indécent.
Il y a aussi une taxe sur les bourges à Lutte ouvrière.
Voilà, oui, alors ça c'est bien, c'est une bonne idée, je trouve. Ça s'appelle la contribution exceptionnelle.
En gros, ils demandaient aux enfants de bourgeois membres de LO de taxer de l'argent à leurs parents, de l'argent qui servait ensuite à financer le parti.
Mais les révélations de David Dufresne ne s'arrêtaient pas là. Souvenez-vous, Arlette Laguiller n'avait pas d'enfant. D'ailleurs, on lui a souvent demandé pourquoi, pour d'évidentes raisons sexistes. Mais dans l'article, on va découvrir que ce serait en fait une règle. L'organisation demanderait à ses militants de ne pas devenir parents.
Cet article n'a évidemment pas plu à Lutte ouvrière et David Dufresne a dû offrir un droit de réponse à Arlette Laguiller.
Sur la question des enfants, de nombreux témoignages de militants affirment qu'il est fortement déconseillé d'en avoir. Ça, c'est ma question. Réponse d'Arlette Laguiller, c'est du romantisme révolutionnaire. Le problème des enfants est beaucoup plus simple. Il y a des militants qui choisissent d'en avoir et c'est vrai que la direction conseille plutôt à ceux qui veulent se donner entièrement au militantisme de l'éviter. Et ce qui est génial, c'est le début. Le problème des enfants. Ah ouais, c'est pas la question des enfants, le problème des enfants, si tu veux.
En effet, Lutte ouvrière n'interdisait pas à ses militants d'avoir des enfants, hein. C'était juste fortement déconseillé.
Et si David Dufresne a affirmé ça dans son article, c'est qu'il avait des témoignages de militants qui allaient dans ce sens.
Aline, longtemps militante modèle, se souvient de ce passage obligé, la commission d'intégration. Deux dirigeants du comité exécutif vérifient ce que tu veux être. Quelles sont tes idées, ta vision de l'organisation et te demandent si tu as bien réfléchi au problème des enfants. On te fait lire un roman signé de Milita qui raconte l'histoire d'une militante bolivienne qui a été arrêtée, torturée et qui a fini par parler à cause de ses enfants.
En fait, ce qu'on demande à ces militantes et à ces militants, c'est un engagement total pour la révolution. Or, pour Lutte ouvrière, la révolution, c'est sérieux. L'histoire est dramatique et on peut même aller plus loin. L'histoire des communistes trotskistes est particulièrement dramatique. Ils ont été persécutés d'abord par les tsaristes, puis par les staliniens ou les nazis. Et c'est à ce récit tragique qu'on veut accoutumer les militants.
Tous les trotskistes ont été assassinés en URSS. Mais que ça soit le camarade Blasco, que ça soit notre camarade Buchholz, on a eu beaucoup de camarades à travers le monde qui ont été assassinés en tant que trotskistes. Et c'est vrai qu'on avait ces habitudes de faire attention. Et comme la Ligue communiste révolutionnaire, comme d'autres organisations, on avait des pseudonymes, voilà.
Oui, non, la LCR, c'était quand même un peu plus cool. Hein. Lutte ouvrière était en effet plus à donf, un petit peu plus sur le qui-vive, on va dire.
Vous l'avez entendu, Laguiller a cité le camarade Buchholz. Et c'est pas n'importe qui. Vous savez, c'est ce militant trotskiste qu'on a retrouvé dans la Seine à la Libération. Il avait été fusillé par des staliniens.
Eh bien, pour Laguiller, c'est pas une histoire lointaine, l'histoire du camarade Buchholz. Hein. Parce que le dirigeant de Lutte ouvrière l'a connu personnellement.
Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous connaissez son nom au dirigeant historique de Lutte ouvrière? Non? Bah, c'est normal, en fait. Le gars est resté dans l'ombre pendant des décennies. On a commencé à en entendre parler qu'au début des années 2000.
On ne connaissait qu'une seule photo de lui. On ignorait jusqu'au son de sa voix. Et même son nom le plus connu, Hardy, n'était qu'un pseudonyme. Depuis des décennies, pourtant, Robert Barcia est le principal dirigeant de l'extrême-gauche française. Et sa discrétion nourrit toutes les rumeurs.
En 98, David Dufresne avait été sidéré de découvrir que cet homme de l'ombre, Hardy, était même inconnu des services de police.
À l'époque, Dufresne a choisi de ne pas révéler le nom de Robert Barcia dans son article, mais d'autres journalistes s'en sont chargés plus tard, si bien que le dirigeant historique de Lutte ouvrière a fini par sortir de l'ombre et publier un livre pour donner sa version de l'histoire. Sous son vrai nom, il a sorti la véritable histoire de Lutte ouvrière.
C'est la version autorisée, c'est la biographie officielle d'un mec qui voulait surtout pas que son nom apparaisse. Voilà.
Ce livre, c'est malgré tout l'occasion pour Barcia de se défendre. Parce qu'il n'y a pas que sur ses pratiques militantes et son culte du secret que Lutte ouvrière avait été attaquée dans la presse.
À Lutte ouvrière, tout est un peu mystérieux, en tout cas différent. Ce n'est pas au siège de son parti que nous avons rencontré Robert Barcia, car de siège il n'y en a pas. C'est ici la maison d'édition du journal Lutte ouvrière. De même, les congrès de ce mouvement sont un peu particuliers.
On sait, y compris dans la presse, que c'est le premier, c'est chaque année le premier week-end de décembre.
Et on peut y assister, est-ce que...
Non, pas la presse.
Bref, Lutte ouvrière n'aime pas la presse et Lutte ouvrière continuera de cultiver le secret, même après le livre de Robert Barcia.
Et même après la mort de Robert Barcia. En 2010, Marianne révèle que le cofondateur de Lutte ouvrière est décédé un an plus tôt. Lutte ouvrière avait donc caché cette information aux journalistes pendant toute une année.
Hardy nous avait demandé explicitement et solennellement de ne rien dire, a expliqué à l'AFP Arlette Laguiller, figure historique de LO. Réputés pour leur discipline, les militants du mouvement, quelques milliers, ont respecté la volonté du père fondateur de l'organisation. Et pourtant, tous les camarades étaient au courant, a déclaré au JDD l'actuelle porte-parole de LO, Nathalie Arthaud.
Depuis toujours, Lutte Ouvrière joue le secret. Pas de siège social connu, mais une boîte postale, une direction sous pseudonyme. À Hello, on a même un nom pour ça, la conspirativité. Le but, selon Fortin, 20 ans de militantisme à Hello, vivre comme si la police t'espionnait et s'entraînait à l'avance en cas de révolution. C'est vrai ? C'était vrai ?
Le discours, c'était... on doit se préparer à la révolution, donc on doit se préparer à la répression policière. Mais ce qui était assez étonnant là, en relisant l'interview d'Arlette Laguiller, elle dit on ne craint pas tant la répression policière que la répression patronale. Et ça, si tu veux, il faut pas le sous-estimer. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les usines, dans les ateliers, dans les entreprises, être à Lutte Ouvrière à l'époque, c'était être marqué au fer rouge sans mauvais jeu de mots.
Mais là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'ils cachent ? Est-ce qu'ils fabriquent des bombes ? Est-ce qu'ils ont une cache d'armes dans le sous-sol de leur mystérieuse maison d'édition ?
Ou dans leur château ?
Ah oui, parce qu'ils ont un château aussi. Un château dans le jardin duquel ils organisent chaque année la fête de Lutte Ouvrière. Le château de Bellevue, ça s'appelle.
Alors comme ça se dit communiste, mais c'est un château.
Je suis une affreuse nantie. Je suis une affreuse nantie.
Bon, Robert Barcia, il s'explique sur le château. Enfin, il s'explique un peu. Ce n'est pas Lutte Ouvrière qui a acheté ce château, et nous n'en sommes toujours pas propriétaires. Les propriétaires sont des militants associatifs qui voulaient créer un centre à mettre à disposition d'organisations ou d'associations de gauche. Si certains de ces militants étaient membres de Lutte Ouvrière, d'autres en sont depuis devenus proches et d'autres ne le sont toujours pas.
Bon voilà, si tout le monde dans cet asso est membre de Lutte Ouvrière ou presque, c'est un coup de bol, quoi, un heureux hasard. Ouais. Ça aurait pu tomber sur n'importe quel orga. Hein.
En fait, comme d'habitude, avec Hello, c'est pas clair. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien nous cacher ? Pourquoi c'est flou comme ça ? Est-ce qu'ils seraient pas en train de nous préparer la lutte armée par hasard ?
Si, par exemple, tu penses aux fachos d'aujourd'hui qui s'entraînent, qui s'équipent, qui se militarisent, t'as pas ça dans les années 90, 80, à Lutte Ouvrière. Mais pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout la lutte armée, Lutte Ouvrière. C'est pas du tout la lutte armée.
Prendre les armes, descendre dans la rue, ça dépend pas des révolutionnaires. Ça n'a pas dépendu des révolutionnaires pendant la Révolution française. Ouais. Je crois, oui, qu'un jour il y aura une révolution, parce que je crois que ce monde, à l'échelle mondiale, est trop injuste.
Quoi qu'il en soit, après toutes ces révélations, Lutte Ouvrière a vu son image dégradée dans les médias.
Oui, ça va encore empirer à l'occasion de l'entre-deux-tours en 2002, quand Lutte Ouvrière a refusé d'appeler à voter Chirac.
Ouais, ils ont fait le même coup à Mélenchon en 2017.
Je n'appelle pas à voter Chirac et je demande à mes camarades, à ceux qui me font confiance, eh bien de voter blanc ou nul dans cette élection.
Qu'une orga trotskiste puisse refuser d'appeler sur commande à voter pour le candidat de la droite, bah ça la bourgeoisie n'aime pas ça. Hein.
Et d'ailleurs, Alain Souchon non plus, il aime pas ça, puisqu'il a annoncé à la suite de cette déclaration qu'il arrêterait de chanter sa chanson Arlette en live.
Attends, elle est nulle sa chanson.
Cette chanson-là, je ne la chanterai plus. Arlette est devenue quelqu'un de dur, de terrible. Des bains de sang, voilà ce qu'elle veut.
Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas du tout exagéré, cette réaction.
Quel observateur avisé de la vie politique, cet Alain Souchon.
Ouais, et puis y a pas que lui, hein. Y a plein de gens à cette époque qui en ont profité pour cancel Arlette Laguiller et la sanguinaire.
Attention, trigger warning, Manuel Valls.
Parce que c'est une imposture, sur le fond, même si elle a eu un vrai succès médiatique. Mais je crois que ça a été une imposture. Je crois que l'a fait mal à la gauche et peut-être encore plus. Au fond, son vrai visage est apparu.
Et il y a pire que de ne pas appeler à voter Chirac pour les bourgeois. Maurice Leroy de l'UDF, lui, ce qui l'a vraiment choqué chez Arlette Laguiller, c'est qu'une fois, elle n'a pas dit bonjour.
Du coup ?
Non.
Franchement, faut qu'on arrête avec Arlette Laguiller. Les uns et les autres, on a eu à débattre sur des plateaux. C'est quand même des gens qui ont une démarche sectaire invraisemblable. Je dis sectaire volontairement. Qui disent même pas bonjour. Moi, j'ai eu à débattre sur FR3 Région Centre chez moi. J'ai dit bonjour, comme on s'est dit bonjour, nous, là. Même pas bonjour.
Même pas bonjour. Mais c'est choquant, ça. Mais c'est comme quand Philippe Poutou, il avait refusé de faire la photo. C'est parce qu'ils sont mal élevés, les prolos.
Voilà. Ben non, en même temps, c'est un parti de classe. C'est normal que LO ou le NPA, ils vont pas aller claquer la bise aux bourgeois. C'est les adversaires. C'est comme les fachos. Arlette, quand elle se retrouve face à un facho, elle va pas lui laisser sa carte de visite et l'inviter au flunch. Là, par exemple, en face d'elle, on lui a mis Jean-Claude Martinez, qui était à l'époque au Front National. Bah, regardez comment elle lui parle.
Le Front National n'a qu'une démagogie anti-émigrée à offrir aux électeurs.
Je m'appelle Martinez, Arlette Laguiller.
Oui, et je pèse mes mots quand je dis démagogie, parce que vous vous en prenez aux travailleurs immigrés, parce que fondamentalement, vous êtes dans le camp de la bourgeoisie. Oh. Et que lorsque vous attaquez les travailleurs immigrés, C'est toute la classe ouvrière que vous attaquez.
Bon voilà, on peut pas imaginer une seconde que cette Arlette Laguiller-là, si elle a pas appelé à voter Chirac en 2002, c'est par complaisance avec les fachos.
Non, en effet, mais à partir de ces années-là, tous les prétextes deviennent bons pour s'en prendre à Hello ou à sa porte-parole. D'autant plus qu'après le naufrage du 21 avril 2002, l'EPS et ses alliés, traumatisés, n'ont plus que le vote utile à la bouche. Il devient urgent de disqualifier toutes ces petites formations qui ont contribué à l'échec de Jospin. En 2007, Lutte ouvrière, qui avait obtenu plus de 5% des voix à la précédente présidentielle, verra son score chuter à 1,33% des suffrages exprimés.
Et ce mauvais score a sans doute marqué la fin de l'apogée médiatique et électorale de Lutte ouvrière.
Alors bien sûr, tout ce qu'on vous a raconté sur le secret et sur ses pratiques militantes un peu bizarres, on ne sait pas si ça a toujours cours à Hello aujourd'hui.
Les deux dirigeants historiques, Pierre Bois et Robert Barcia, ceux qui avaient connu la guerre et la persécution, sont aujourd'hui décédés.
Malgré tout, l'esprit de discipline et de sérieux qu'ils avaient insufflé dans Lutte ouvrière, bah ça semble toujours aujourd'hui faire partie de l'ADN des militants de l'organisation.
Ce qu'on peut dire de Lutte ouvrière, en tout cas ce qui me semble être toujours la même chose, c'est que c'est pas plus souriant aujourd'hui qu'à l'époque. Voilà, ça c'est vrai.
Ces militants, ces révolutionnaires professionnels qui se pensent comme une avant-garde au sein du prolétariat, ils sont toujours là, sur le terrain, dans les usines, dans les entrepôts.
Et quand on voit la facilité avec laquelle Hello récolte ses 500 parrainages à chaque présidentielle, on se dit que ces militantes et militants travaillent avec toujours autant d'efficacité et de dévotion pour leur cause.
Et ils transmettront la flamme de la Révolution à leurs enfants.
Bah non, ils peuvent pas en avoir. Enfin, c'est fortement déconseillé en tout cas.
Et ils transmettront la flamme de la Révolution aux enfants d'autres gens.
J'ai connu en ma jeunesse le Parti Socialiste à 5%. J'ai connu le PC aussi à 25% et aujourd'hui... Donc ça, c'est pas... Le problème, c'est que, de toute façon, on est, nous, les communistes révolutionnaires, on est minoritaires dans le pays et qu'on a à grandir, à se développer. Et que moi, j'ai mis beaucoup d'énergie, mais c'est vrai que je compte maintenant aussi sur la nouvelle génération de mon parti pour essayer de convaincre de nos idées.
On peut reconnaître à Hello la constance de leur ligne, de cette orthodoxie communiste révolutionnaire. Cependant, l'opacité de l'organisation et la discipline exigée des militants rend parfois Hello hermétique à certaines des évolutions de la société et du mouvement social.
Par exemple, Hello n'a pas intégré les acquis des luttes pour les droits des homosexuels. En 98 encore, David Dufresne écrit que l'homosexualité était plutôt mal vue au sein du parti.
Hello est également passé à côté du caractère politique des révoltes de banlieue en 2005. Et la ligne fortement anti-religieuse de leur organisation les a également rendus aveugles aux problèmes structurants de l'islamophobie en France.
Il n'est pas sûr que les jeunes révolutionnaires d'aujourd'hui se sentent bien accueillis dans ce mouvement qui va leur sembler poussiéreux, daté, voire anachronique en 2022.
Arlette Laguiller a donné sa vie à ce mouvement, invoquant sans cesse la possibilité d'une révolution. Mais ce modèle de révolution, en tout cas tel qu'il est promu par Lutte ouvrière, a aujourd'hui plus d'un siècle. Quand la révolution reviendra, il est probable qu'elle n'ait plus le même visage. Et peut-être que ces militants aguerris seront finalement les derniers à la reconnaître. Travailleurs, travailleuses, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode des Portraits.
C'est l'heure maintenant de votre contribution exceptionnelle. Demandez de l'argent à vos parents pour financer Blast, hein, sera déjà toujours ça de prix.
Voilà, et puis quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Portrait.
Voilà.